France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza. À demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3. Hein ? Encore une fois ?
Chers écouteurs, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui écoute et s'écoute. Et pour continuer notre thématique liée à l'entendre, je vous propose de plonger dans l'univers de Pauline Oliveros, compositrice, accordéoniste et improvisatrice, disparue le 25 novembre dernier à l'âge de 84 ans. Fondatrice du Deep Listening Institute, Pauline Oliveros a participé à la révolution de notre écoute, de notre entendre dans la deuxième moitié du XXe siècle. Développant une musique de l'infime, du sensoriel. Son œuvre nous hante encore aujourd'hui. Une émission pour évoquer sa mémoire en compagnie de l'accordéoniste Pascal Conté, ami et partenaire musical de Pauline Oliveros. Et comme chaque mardi, un son explosé à la truelle. Le Cri du Patchwork, thème numéro 22, épisode numéro 5, séquence numéro 1.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le morse, en tant que son, comme ce signal suraigu, strident que nous venons d'entendre, ou en tant que motif rythmique, propre à la digression musicale. Ce qui fascine avec ce son aigu du code Morse, c'est cette parenté avec toutes les recherches des musiciens de la noise électronique, à l'affût du moindre craquement, accident numérique, comme les glitches. Et quand on écoute pas mal de pièces de Ryoji Ikeda, par exemple, on se dit que l'influence du Morse n'est pas très loin. Dans l'esthétique de Ryoji Ikeda, le morse correspond pas mal à son utilisation graphique de code-barres noir et blanc. La transposition sonore d'un code-barre pourrait très bien avoir cette forme de code morse, avec ses sons courts et ses sons longs. Comme le fameux code morse que tout le monde semble connaître, SOS. Nombre de pièces musicales intègrent un bout de SOS en code morse, mais pas toujours avec la même signification. Les Clash dans London Calling terminent le morceau avec cet écho lointain d'un SOS joué à la guitare. Évidemment, ici, le SOS a tout son sens en 1979, en ce début de mandat de la dame de fer, Margaret Thatcher.
It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
L'utilisation du SOS peut aussi devenir un outil narratif, comme lorsque Gavin Bryars, l'utilise dans son œuvre protéiforme The Sinking of the Titanic, composée entre 1969 et 1972. Le compositeur retrace ici la destinée de la musique à bord du paquebot en la présence de l'orchestre embarqué à bord du Titanic. Gavin Bryars tente alors de traduire le naufrage de la musique s'enfonçant progressivement dans les abysses. Dans une version live donnée en 2012, tout un passage reprend ce SOS joué par des instruments sur scène ou diffusé sur haut-parleur dans la salle. Brésilien Som Imaginario et son morse de 1970 où la clave, le rythme toujours présent dans quantité de musique d'Amérique du Sud, est lu comme un code morse. T-T-T-T-T-T-T-T-T. Trois courtes, trois longues, trois courtes, c'est-à-dire SOS. Et peut-être bien qu'il y a un code caché derrière pas mal de notes répétées dans l'histoire de la musique. Un peu comme celle-ci. Certains y ont vu le V de victoire, trois courtes et une longue. Bon, le pauvre Beethoven, il n'en savait rien, parce que le morse a été inventé après sa mort. Mais bon, ce riff, ce motif, ce pattern, ce rythme surcélèbre est devenu l'indicatif des émissions de la BBC diffusées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est en effet possible de faire des motifs rythmiques en morse. Le groupe de rock progressif Rush s'est inspiré ainsi du code aéronautique de l'aéroport de leur ville natale, Toronto, correspondant aux trois lettres YYZ. En morse, ça fait... Mais bon, ici, le code Morse est entièrement rythmisé, si ça se dit. Il est contraint de rentrer dans un tempo, une métrique pour devenir un rythme reproduisible. Alors que finalement, le débit d'un code Morse, c'est un peu une formule hors du temps. Une forme d'électron libre qui peut tout à fait devenir un contrepoint temporel au déroulement d'un morceau. Le jeune artiste flamand Willem Hardui, dans Morse, une chanson toute en intimité et riff de batterie perforé, lance des appels de Morse, qui semble flotter dans un espace-temps non musical. Approprier le son du code Morse dans Radioactivité. Est-ce pour dire quelque chose ? Alors là, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir dans cette utilisation du Morse des messages plus ou moins cachés. Comme dans Message esquisse de Pierre Boulez pour 6 violoncelles et un violoncelle soliste. Dès le début, toute la musique dit quelque chose. Chaque note tenue par les violoncelles sont des hauteurs correspondant aux lettres du nom du commanditeur de l'œuvre, mais surtout ami de Pierre Boulez, Paul Zahreur. Le S est un mi bémol, A un la, C un do, H un si bécard, E un mi, R un ré. Suite à cet accord de six notes totalement figées, on entend plein de petits impacts joués avec le bois de l'archet, col legno, qui sont en fait la transposition en morse de chaque lettre. Un double message, en hauteur et en rythme, caché, mais pas tant que ça, finalement. Par la voix démultipliée de la chanteuse Camille, qui, mis bout à bout, disent en morse la première phrase de cette chanson, « Show me the waves ». Dire à la voix les courtes et les longues de chaque lettre du code morse. Phil Kawa, dans son « Rhythm of the Code », a créé un morceau du meilleur goût pour apprendre le code morse, en passant en revue chaque lettre de l'alphabet. Comme il le dit en ouverture, un « dit » est un « dot », un « da » est un « dash », pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Notre UMO du jour, Unidentified Musical Object.
Soon you'll know the rhythm of the code. A dit is a dot, a da is a dash. The rhythm of the code. Alpha.
Da.
Bravo.
Da, 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 da.
Charlie.
Da, 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 da.
Delta.
Da, da, da.
Echo.
Dip.
Foxtrot.
Da, 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 da.
Golf.
Da, da, da.
Hotel.
Da, 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 da.
India.
Da, da.
Julian.
Da, da, da.
Kilo.
Da, da, da.
Lima.
Da, 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 da.
Mike.
Da, da.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Pascal Comté, bonsoir.
Bonsoir.
Le 25 novembre dernier, à New York, disparaissait Pauline Oliveros, une musicienne, improvisatrice, enseignante et chercheuse invétérée de tous nos modes d'écoute, de notre pensée de l'écoute. Une créatrice hors norme qui a été proche de John Cage comme de la scène des musiques improvisées et fondatrice du Deep Listening Institute. Et pour entrer dans cette écoute profonde, ce Deep Listening, je reçois Pascal Comté, donc accordéoniste, ami et collaborateur de Pauline Oliveros, puisque vous avez travaillé ensemble, mais pour arriver à travailler ensemble, ça a été un parcours pour vous, puisqu'au départ, c'est un choc, la rencontre avec Pauline Oliveros.
Ah oui, complètement, c'est un parcours. C'était lors d'un concert, je remplaçais mon professeur à l'époque, j'étais en Allemagne, elle ne pouvait pas aller jouer en Belgique, c'était à la studio Logos Foundation à Gand, et là, on m'a mis dans les mains le Roots of the moment de Pauline Oliveros en me disant « Mais comment, tu ne connais pas Pauline ? Ça vient de sortir. » Je suis rentré, j'ai écouté ça et ça a été vraiment l'album de toutes mes études. Mais vraiment.
Qui vous accompagnait du début ?
Il m'a accompagné, c'est-à-dire que le soir je le mettais et puis pendant ce temps-là je faisais tout ce qui était les écritures des sciences musicales. Et pour moi c'était une révélation de me dire que comment on parvient à créer un tel univers avec un instrument qui est assez décrié, parce que là, je vous parle de 87.
Oui, c'est-à-dire que l'accordéon, en 87, c'est pas l'accordéon d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui est très présent dans la composition contemporaine.
Voilà.
En 87, c'est rare.
Oui, puis nous, on savait, moi j'étais jeune et je voyais bien les pièces que je jouais n'avaient absolument rien à voir avec ce que j'entendais. Si bien que je l'ai placé comme une planète, comme une étoile très très lointaine en me disant, bon bah c'est très bien. Et puis, lorsque j'ai rencontré Joël Léandre, avec qui j'ai commencé à improviser en partir de 1993, je lui ai dit « Est-ce que tu connais Pauline ?» Elle m'a dit « Bien sûr, je connais Pauline, Oliveros et tout. » Et puis voilà, et c'est resté là. Et je voulais vraiment l'inviter dans le festival que je dirigeais à l'époque, au Théâtre 71 de Malakoff. J'avais son numéro, son mail, et impossible de le faire.
Mais blocage dû à une sacralisation un petit peu de
un
ce
peu, oui, 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 certainement. Et c'est un jour, à force d'en parler à droite et à gauche, qu'un guitariste qui s'appelle Jean-Marc Montera me dit « Écoute, tu vas venir à Cassis puisque je t'ai organisé un concert avec Pauline Oliveros. Elle est là-bas pour une résidence à la Fondation Camargo. Elle est d'accord, donc voilà, vous choisissez la date et on y va. » Donc on s'est connus, on s'est reconnus, voilà, comme dans la chanson. C'était vraiment fantastique et on n'avait pas besoin de parler en fait, vraiment pas. Je crois qu'on a tout de suite eu cette sensation d'aimer le même instrument, d'aimer le même parcours, de l'écouter aussi d'une autre manière. Et puis, il y a eu la bénédiction aussi de Patti Smith, ce qui est quand même pas rien dans la vie,
c'est sûr.
D'un musicien. Parce qu'en fait, elle préparait à l'époque à la Fondation Cartier, elle préparait son exposition. Land 250, et puis Isabelle Godefroy qui préparait aussi les programmations des soirées nomades, apprenant que nous allions jouer, alors que ça faisait peut-être 10 ans que je parlais à Isabelle Godefroy, oui, on viendra jouer, ce serait superbe de venir jouer avec Pauline. Voilà, donc elle dit, on va voir Patti Smith pour la programmation, on va lui proposer ce concert, et puis voilà, le lendemain, elle m'a appelé, elle me dit, aucun souci, vous venez volontiers. Donc, dans la même année, rencontrer Patti Smith et Pauline Oliveros, j'étais très heureux, et c'était vraiment empreint de, c'était pas on pourrait dire une forme de frime. Non, il y avait rien de cela. C'était vraiment quelque chose de très profond, d'un univers américain, d'un rêve américain, new-yorkais, de se dire c'est tout l'underground aussi américain, toute cette créativité.
Création expérimentale, vraiment.
Expérimentale, les performances, les installations, etc. Et tout à coup, de se dire, on touche des personnes qui sont dans cette créativité. C'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans notre vie, d'être créateur.
Alors je vous propose, Pascal Conté, de vivre un peu ce que vous avez découvert avec The Roots of the Moment. Nous sommes ici avec un disque de 1987. Et là, le morceau s'appelle Striation. On entend vraiment son travail sur son propre accordéon en multiplication. Extrait du disque The Roots of the Moment de 1987, ici Pauline Oliveros seule mais avec elle-même. Pascale Conté. Quand on entend sa musique, elle est autant compositrice qu'improvisatrice. Elle guide beaucoup aussi les musiciens avec qui elle travaille dans le Deep Listening Institute. On va y revenir. Ici, quand on entend cette pièce-là, est-ce qu'on se pose cette question-là de l'écriture, de l'improvisation, quand on est étudiant comme vous à l'époque ?
À l'époque, j'étais vraiment dans le côté interprétation. C'est-à-dire qu'on me donnait une partition et puis l'élève bien discipliné l'a joué. Et je pensais pas, j'étais pas du tout dans la perspective de commander des œuvres. Mais en fait, lorsque j'ai écouté cette musique, c'était d'abord le choc de cette poésie. Pour moi, c'est une poésie sonore, c'est quelque chose de fantastique. Et donc, peu importait finalement, est-ce que c'est improvisé ou écrit. Et c'est un peu aussi ce que je dis souvent et dans les récitals que je fais. Je mélange autant l'écriture que la composition, en fait, c'est un mélange.
Et c'est vrai que Pauline Olivero, c'est un parcours, comme pas mal de compositeurs de cette génération-là, John Cage, ou de compositeurs qui ont travaillé à New York et qui ont vraiment participé à cette musique dite expérimentale. Là, Pauline Olivero, c'est vraiment un parcours autour de cet accordéon qui est présent constamment, mais aussi cette transmission qu'elle a énormément donnée. Elle vous a transmis ces modes d'écoute, parce qu'on parle souvent du Deep Listening Institute, cette sorte d'établissement dans lequel elle apprend aux gens à entendre. Oui. Est-ce qu'avec vous, elle parlait de ça ? Est-ce qu'elle vous donnait ces trucs pour écouter le monde autour de vous ?
Alors non, on n'en a pas vraiment parlé. Je me posais justement en venant ici, je me posais la question et je me suis dit, on a toujours été sur le concret avec Pauline. Je ne l'ai pas rencontrée des dizaines de fois, hélas, mais lorsque je la voyais, je vous dis, c'était comme un terrain de connaissance et de reconnaissance. Donc, on était vraiment d'accord. Je me souviens, lorsqu'on était à la Fondation Camargo, c'est magnifique. Vous avez, je crois, la Roche Blanche derrière, à Cassis. Voilà, on a écouté les feuilles, on a écouté la mer, on a dit que forcément, il fallait qu'on se laisse inspirer de ça. On a joué à l'extérieur, c'était un dimanche après-midi, un grand soleil méditerranéen. Mais finalement, je crois qu'on est, sans se le dire, on était dans cette technique... Voilà. Donc on n'en a pas vraiment parlé.
C'est-à-dire que le Deep Listening Institute, c'est vraiment un ensemble de musiciens qui travaillent sur cette idée d'ouvrir ses oreilles, non pas uniquement à tout ce qui peut nous entourer de manière, parasitaire, c'est-à-dire le bruit comme étant considéré comme bruit, mais vraiment une oreille ouverte au monde pour être prise dans un tout. Le son,
tout
musique,
relier, voilà,
tout ce qui peut nous relier. Ouais. Une forme de méditation aussi qui est souvent reprise, parce que vraiment toute la dimension zen, bouddhiste, est souvent reprise dans ce Deep Listening. Est-ce qu'en écoutant ces pièces de Pauline Olivero ou en jouant avec elle, vous aviez cet état méditatif qui pouvait arriver, c'est-à-dire pousser, comme elle le faisait fréquemment avec son accordéon, des matières très longues, des matières beaucoup en transformation aussi. Elle transformait énormément le son de son accordéon, j'allais dire ordinateur, pas par hasard, de son accordéon au fur et à mesure, par des matières souvent longues, très précises. Oui. Est-ce que pour vous, il y avait cet état méditatif qui rentrait aussi dans cette manière de jouer avec elle, dans votre écoute commune ?
Alors avec elle, lorsque j'étais avec elle, j'étais en écoute d'elle. D'ailleurs, je me souviens très bien du premier concert que nous avons fait. Alors, c'était une belle brochette, un beau quatuor. Joël Léandre à la contrebasse, Bart Phillips, contrebasse, Pauline Olivero, c'est moi-même. Et là, on était tous à l'écoute. Il y avait comme une admiration en fait, chacun de l'un vers l'autre. Et avec Pauline, j'étais un peu, parfois peut-être un peu trop. Le fait de se dire, voilà... elle a fait ça, il ne faut pas être dans l'imitation aussi. Donc on s'amusait tous les deux. Je me souviens que sur les duos que nous avons enregistrés pour, j'espère un jour, en faire un album, on s'envoyait des petites choses. Elle savait que je venais aussi du monde de la musique contemporaine. Donc de temps en temps, elle faisait des choses très tapes.
Un petit peu. Geste de la musique contemporaine.
Geste de la musique contemporaine. Et puis moi, j'essaie par contre de répondre sur des longues plages. Donc c'était un peu, je viens dans ton monde, tu viens dans mon monde, je sais d'où tu viens. Et c'est ça aussi, le monde de l'improvisation, c'est aussi un jeu, quelque part. Voilà, j'étais plus là-dedans. Mais en revanche, quand je joue seul, en improvisation, ce que je vais faire à Paris au mois de janvier, je suis plus dans un état de méditation, parce que là, c'est l'instrument que je connais, je suis seul avec. Lorsque je joue en plus dans l'obscurité, il y a quelque chose qui se passe avec le public, puisqu'on est, on n'est plus du tout dans le paraître. Ils n'ont pas à savoir si mes chaussures sont bleues, rouges ou jaunes. On est dans l'obscurité et on écoute. Là, pour le coup, oui, je suis dans un état très profond, très intime.
Vous parliez de votre duo, vous êtes venu avec un inédit qui est déjà passé dans l'émission d'Anne Montaron parce que c'est une perle.
Mince alors.
Un duo donc que vous avez réalisé avec elle, enregistré sur le vif, vraiment.
Complètement,
vous avez,
oui.
Vous aviez une heure et demie d'enregistrement bout à bout.
Voilà, on a appuyé le bouton et puis on a continué. Mais mon petit chien qui était à côté, de temps en temps, il était obligé d'arrêter parce qu'il bougeait. mais l'idée, c'était vraiment on joue. Alors ce qui est drôle, là, j'ai retiré, mais j'ai tout réécouté et... C'est troublant quand on entend la voix de Pauline, qui était quelqu'un de très joyeux, très cool. Je lui disais, bon, là, on fait ça. Yeah, that's fine, yeah, yeah. Et rien n'était grave, tout était simple.
Mm-hmm.
un extrait d'une improvisation à deux entre Pascal Conté et Pauline Oliver Ross. Nous étions en 2012. Quelque chose d'inédit. Peut-être qu'il donnera lieu à un disque, une édition phonographique.
J'espère. Le concept, oui, c'est de partir sur les duos que j'aime. Donc ça partait bien en 2012. Et puis le temps fait qu'on fait plein de choses à droite et à gauche. Et puis on n'a pas forcément un studio sous la main. Là, pour le coup, c'était dans le cadre du festival Europa Jazz. Et à la Fonderie, au Mans, ils ont un studio d'enregistrement. Donc c'était l'occasion rêvée.
Alors en écoutant justement ces improvisations, on voit que Pauline Oliver Ross était une personne extrêmement ouverte dans les pratiques, que ce soit l'improvisation, l'écriture de la musique, ou même la musique conceptuelle ou électronique, puisque c'est une grande précurseur de tout ce travail sur l'électronique, les nouvelles technologies. Déjà, quand on écoute The Roots of the Moment, ce disque qui vous a tant marqué, Pascal Conté, on entend ce travail sur le re-recording, sur la déformation, sur aussi des tempéraments d'accordéon, des modifiés. Oui. C'était complètement novateur.
C'est rare, c'est très très rare, oui. Pour l'époque, c'est... Alors, 87 peut-être moins, parce qu'il y a d'autres pièces. Puisque je parle de Pauline Oliver Ross, en fait, il y a trois noms qui ont marqué vraiment mon univers. C'est aussi Arne Nordheim, qui est un compositeur norvégien. Et puis en France, Alain Bott, qui dans les années 70 a beaucoup travaillé l'accordéon, notamment avec les cordes. Et c'est vrai que chez Pauline, oui, elle travaille ce son un peu, j'allais dire, désintégré un peu. Il y a comme un son un peu étrange. Et quand vous êtes accordéoniste et qu'on vous a fait jouer des valses musettes, je peux vous dire qu'on aime aller aussi dans ces sons étranges.
Oui. Parce que l'accordéon, c'est finalement presque un ordinateur. Comme on conçoit, c'est-à-dire un instrument avec beaucoup de timbres différents. Chaque instrument est différent. On peut vraiment travailler sur les attaques. C'est un instrument propice à l'expérimentation.
Complètement. Puis alors, plus on avance, et j'espère que les jeunes, mais je pense que les jeunes seront dans cette optique-là, plus on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres possibilités. C'est-à-dire, tout en improvisant, parfois je m'aperçois que avec tel doigt on peut vraiment faire quelque chose, et puis avec l'autre sur le même clavier on peut engranger une autre manière de jouer. Donc il n'y a pas uniquement le fait de d'ouvrir fermer le soufflet, il y a la manière aussi d'appuyer les boutons sur les touches. Ça, je dois dire, c'est pas forcément les compositeurs qui me l'ont fait découvrir, c'est la pratique de l'improvisation, de l'expérimentation, et parfois aussi des compositeurs qui me disent: ah, et si on faisait ça? Moi, je me souviens aussi d'une séance avec Pierre Boulez, qui hélas n'a pas écrit pour accordéon, mais qui voulait entendre ce qu'on pouvait faire. Et il était fasciné, par exemple, par les accords tout préparés de la main gauche.
Oui.
Et ça, avec Pauline, on l'avait aussi, on avait joué dans toute une impro aussi là-dessus, sur les accords vraiment préfabriqués.
L'objet accordéon a déjà toute une sorte de preset déjà préparé pour pouvoir amener une matière qu'aucun autre instrument ne donne.
C'est ça. Alors, c'est assez amusant parce que nous sommes partis, nous avons évacué, fui un petit peu ce côté accord préparé de la main gauche. Et puis vous êtes devant un Pierre Boulez, avec une musique très précise qui vous ramène à ça, mais en même temps en proposant autre chose. Moi, je me souviens, il m'avait dit qu'est-ce que ça fait si vous jouez cinq accords en même temps. Et il était fasciné. Mais plein de compositeurs ont été fascinés par ça.
Donc avec Pauline Oliver Ross, finalement, vous étiez en train de scruter cet instrument aussi, qu'elle a beaucoup scruté en avant, dans le temps. Et puis vous avancez avec elle, et puis avec les compositeurs autour. Aujourd'hui, quand vous composez, quand vous improvisez, est-ce que vous retrouvez finalement de ces techniques qu'elle avait pu développer au cours des années 70-80 dans cet instrument ?
Ah, forcément. Ça, je dois dire que ça, c'est toujours resté. Encore une fois, je vous dis, ça a été un choc, ce disque. Et puis, nous avons la chance, c'est vrai, d'avoir un instrument avec des longues tenues. Et ça, elle en a tenu compte, justement. Et moi, je compte aussi là-dessus, justement, sur ces longues tenues, parce que c'est une manière aussi très, très méditative d'aller dans le son, de le timbrer, de le changer. Et c'est assez fantastique. Alors, quand on joue avec électronique, c'est infini, puisqu'on peut, la boucle est très, très, très longue. C'est bien plus difficile quand vous jouez, par exemple, des hanches, avec de l'air, même si nous avons aussi des hanches et de l'air, mais c'est vrai que c'est ce qui va créer aussi cette, mélancolie, cette monotonie, mais poétique. C'est bien aussi de temps en temps de s'ennuyer aussi, je trouve. Et même musicalement, je trouve que c'est bien qu'on entend et on va dedans et on va jusqu'au bout du son. Et c'est, je crois que c'est ça aussi, même si je suis pas un expert du deep listening, mais c'est aussi aller au bout de l'écoute, au bout du son, et essayer de relier tout ça avec quelque chose de très très poétique.
Je propose d'écouter un extrait d'un disque, Accordion and Voice, qui date de 1982, dans lequel on entend vraiment ce temps déployé de l'accordéon, et on entend aussi une voix qui se rajoute, et c'est celle de Pauline Oliver Ross. Voici Earth Sings from Cloud.
Mm-hmm.
extrait de Horse Sings from Cloud de Accordion and Voice de 1982. Ici, Pauline Ulveros, toute seule. Et vraiment, on a l'impression qu'elle se livre à travers cette manière de jouer très intime. On entend sa voix qui émerge de l'accordéon. Et là, ça me fait penser à toutes ces partitions expérimentales qu'elle a pu écrire jusqu'à sa mort. Ces partitions textuelles qu'elle donnait à réaliser par on va pas dire ses élèves, mais c'est pas non plus ses disciples, ses adeptes peut-être, du deep listening. En particulier, par exemple, une partition qui s'appelle The Inner Outer Sound Matrix, qui date de 2007, dans laquelle elle dit « Écoutez intérieurement votre propre son ». Et pas de notes, il n'y a pas de notes, pas de consignes de jeu de musique, il n'y a simplement que des indications, des consignes pour être un meilleur écoutant. Est-ce qu'à travers Pauline Ulveros, Pascal Conté, on apprend à s'écouter soi, mais à écouter les autres aussi?
Très important, je crois que c'est avant de s'écouter soi, c'est très important d'entendre les autres, puis après de les écouter. Et bien sûr, et quand aussi lorsqu'on joue d'un instrument, je pense à ceux qui nous écoutent et qui en jouent pour le plaisir. C'est important aussi de ne pas forcément toujours avoir cet écran qui est la partition et de se dire, voilà, j'ai envie de m'écouter, quel serait mon son? Alors effectivement, Pauline va plus loin puisqu'elle parle du son intérieur et c'est une expérience formidable à faire, d'être dans le silence et se dire quelle serait la note, quel serait mon son, je sonne comment, puisqu'on parle d'aura aussi. Alors est-ce qu'il y a une aura sonore? Ce serait drôle, dans les rues, on ferait gling, gling, bling. Ce serait super.
Et on serait à l'écoute des autres.
Et on serait à l'écoute des autres. Et c'est peut-être pour ça que parfois on dit, tiens, j'ai des atomes crochus. Voilà, peut-être des notes.
On rentre en résonance avec les autres.
On rentre en résonance. Donc, je trouve la logique, et surtout la philosophie, de dire qu'on résonne est très juste. Mais pour aller plus loin, je pense aussi, lorsqu'on joue d'un instrument, ou même si on n'en joue pas, d'en prendre un, et de voir ce que ça fait. Je me souviens un jour d'un ami viticulteur, qui s'appelle André Oostertag, qui fait un magnifique vin. Nous étions à Strasbourg, dans les locaux des percussions de Strasbourg, et tout à coup, il est allé près d'un tam, et il a tapé dessus, et il me dit, oh, c'est fantastique, les vibrations font du bien. Et je pense qu'on devrait être plus souvent avoir, en tous les cas, cette faculté d'aller vers l'instrument et de voir le bien aussi que la résonance fait. Donc si vous êtes amateur, prenez votre clarinette, votre saxophone, et faites un son qui vous fait du bien.
Là, on parle vraiment d'une écoute sensorielle.
Oui.
Quand on parle de Pauline Ulveros, finalement, tous ces concepts, parce que ça part aussi de concepts réels et partagés avec John Cage, avec des gens qui ont travaillé justement sur ce déplacement de l'écoute aux États-Unis, ça n'empêche que c'est pour révéler une écoute sensorielle qu'on a peut-être oubliée.
Exactement. Depuis le début, je crois qu'on parle de ça de manière finalement assez claire.
Oui.
On sent quand même qu'aux États-Unis, il y a cette écoute sensorielle qui est très importante et qui, pour moi, est primordiale dans n'importe quel concert, dans la vie des oreilles.
Alors, à savoir, dans le parcours de Pauline Ulveros, on en parlait tout à l'heure, c'est ce travail avec l'électronique, puisqu'il faut le dire quand même, elle a été fondatrice du San Francisco Tape Music Center. Elle était au centre vraiment du Mills College aussi, où elle a vraiment enseigné à énormément de compositeurs expérimentaux actuels.
Et on l'a vu d'ailleurs, je l'ai appris très tôt, son décès. Étrangement, j'arrivais pas à dormir, et hop, je regarde comme ça Facebook, mais c'était en pleine nuit, hop, j'ai appris que. Et j'ai vu en l'espace de 20 minutes, le monde entier, ça n'arrêtait pas. C'était assez troublant. Ça arrivait de Corée du Sud, San Francisco, Mexico, partout. Donc oui, effectivement, c'était quelqu'un de très important, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas joué la médiatisation. C'est-à-dire qu'elle a fait son travail, et son travail a été écouté par des tas de gens, des gens qui étaient aussi au fait des réseaux sociaux. Moi, je me souviens, lorsque j'ai vu Pauline à Cassis, à l'époque, je crois qu'il y avait quelque chose qui s'appelait City Life, ou quelque chose comme ça, où, bon, elle avait son personnage dans une cité, une sorte de planète, et ça l'amusait. Elle disait, bon, il faut que je m'occupe de mon personnage, parce que sinon il va mourir, ou je sais plus ce qui se passait. Et j'ai dit, mais elle me dit, oui, non, c'est très drôle. Et, bon, elle était vraiment à chaque fois au fait de ça. Et c'est vrai que, on voit aussi que tous les gens qui la suivaient sont imprégnés vraiment, sont très, très affectés, de son départ.
Pour voir l'impact qu'elle a eu sur les musiques expérimentales et musiques électroniques, je propose d'écouter une pièce de 1966, c'est No Mo, où on voit déjà qu'elle travaillait énormément avec toutes les matières, et quand on a entendu l'accordéon qu'elle travaillait, d'entendre ça, on se dit que c'était une personne multiple, généreuse et toujours à l'écoute.
Thank you.
morceau de 1966 de Pauline Olive Rose, où on voit Pascal Conté que, plus qu'une percurseur, c'était vraiment un génie de ces bruits, de ces sons qu'elle trouvait, que ce soit dans la nature ou dans la musique électronique, dans n'importe quel appareil, le boucla,
même complètement,
n'importe quel synthétiseur, et donc son accordéon. Merci beaucoup Pascal Conté d'être
merci
venu
à vous
évoquer
merci
cette
merci
personne incroyable, Pauline Olive Rose, donc qui nous a quitté le 25 novembre dernier. Je tiens à faire écouter quand même un extrait d'un de vos disques, Utopian Wind, qui est édité dans votre propre label, Plein Jeu, donc sorti en septembre 2015. Alors on va écouter un morceau qui est Oliverosien, si ça se dit, c'est-à-dire vraiment où on voit la marque de Pauline Oliveros. Le morceau va apparaître sous nos voix et finalement donner une belle conclusion à la continuité de l'univers de Pauline Oliveros à travers vous, Pascal. Pascal Conté, vous donnerez un concert le 18 janvier prochain, donc 2017, à 20h, à l'auditorium du Collège des Bernardins à Paris, et que vous dédiez à Pauline Oliveros par rapport à cette écoute sensorielle, on en parlait tout à l'heure. Évidemment, toutes ces infos sont à retrouver sur votre site internet pascalconté.com. Pour avoir plus d'informations sur Pauline Oliveros, c'est paulineoliveros.us ou deeplistening.org, avec des partitions, des éditions, des disques divers et variés de l'univers de Pauline. Et je tiens à préciser à tous les écoutants que jeudi prochain, le 22 décembre, dans l'émission À l'improviste d'Anne Montaron, sera rediffusé le concert qui avait été donné par Pauline Oliveros et Barre Philips, enregistré dans les studios de Radio France. Merci beaucoup Pascal.
Merci à vous.
Au revoir. Fin de notre cinquième épisode du Cri du Patchwork sur l'entendre. Merci à Perrine Minguy aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Pierrick Charles. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, dernière émission de l'année, dernière émission sur l'entendre. Et une rencontre avec Bernie Krauss, bioacousticien dont l'œuvre est au centre de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux à la Fondation Cartier à Paris jusqu'au 8 janvier. L'occasion de se balader dans plus de 45 ans d'enregistrements du monde animal, 15 000 espèces différentes captées par le musicien américain, toujours à l'écoute du monde. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez également podcaster l'émission. En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année, chers écoutants.
Si je fais 1, Tagalam, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire, 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir, voilà.
France Musique, il est minuit, je passe la main à Anne Montaron et son Alabrévé pour ouvrir une nuit sur France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.